Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'essor économique de la criminalité organisée au niveau mondial. Nous retrouvons nos invités, Jean-François Guéraud, commissaire de la police nationale et ancien membre de la direction de la surveillance du territoire, aujourd'hui essayiste. Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint du mensuel Alternative économique, et Jacques de Saint-Victor, historien. Je reprends les chiffres que vous donnez, Jean-François Guéraud, dans votre ouvrage « Le nouveau capitalisme criminel », un rapport de l'agence de l'ONU spécialisée dans la lutte contre le crime publié en 2011, dresse un constat sans appel. Les revenus criminels mondiaux représentent 2100 milliards de dollars par an, chiffre de 2009. Probablement a-t-il augmenté depuis, je ne sais pas. La part de l'argent sale blanchi via le système financier mondial est estimée chaque année à 1600 milliards de dollars. Les flux financiers issus du seul crime organisé et du trafic de drogue représentent 870 milliards de revenus par an. Ça fait beaucoup de chiffres, mais je pense qu'ils sont importants à poser. Environ 70% de ces 870 milliards annuels, soit 580 milliards de dollars, sont blanchis via le système financier. Les revenus les plus importants du crime organisé proviennent du trafic de drogue à hauteur de 20%. Et alors, peut-être plus surprenant, seulement 1% des 1600 milliards de dollars blanchis chaque année dans le monde parviennent à être captés par les instances de régulation ou de répression. Commentaire, Jean-François Guéraud.
Alors, deux commentaires. Tout d'abord, on se rend compte, quelle que soit l'incertitude du chiffrage d'une activité criminelle et clandestine, il n'y a pas d'INSEE du crime, évidemment. Bon, mais quelles que soient ces incertitudes méthodologiques et autres, dont il faut avoir conscience, eh bien, on se rend compte aujourd'hui que nous sommes dans des sommes macroéconomiques, des sommes qui ont un poids considérable. Vous vous rendez compte que tous ces chiffres sont très supérieurs au PIB, parfois, ou au budget de certains États. Donc tout ça a du sens. On n'est pas dans le marginal, dans le folklorique, dans le ponctuel. Ça a du sens d'un point de vue économique, financier. Ça a du poids. Ça leste l'économie et les marchés. Seconde remarque, et c'est peut-être le chiffre qui a été évidemment le moins commenté par la médiasphère, mais c'est ce chiffre de 1% qu'un rapport de la Cour des comptes américains avait déjà mis en valeur. C'est-à-dire que grosso modo, ça signifie que quand moins de 1% de l'argent du crime blanchi arrive à être capté, récupéré par une voie administrative ou judiciaire, cela signifie que la lutte contre le blanchiment d'argent est un échec total et pathétique. On a d'un côté donc des cathédrales de papier, des institutions, des lois, des discours qui donnent l'illusion de l'efficacité et de la réussite. On s'imagine que le verbe suffit à transformer le monde, c'est pas aussi simple. Et puis, dans les faits, on se rend compte que tout ça ne fonctionne pas. Ce qui est grave, c'est grave pour deux raisons, parce que lorsque vous permettez à la machine de blanchir, vous encouragez des activités criminelles en amont. Une activité criminelle est incitée à se poursuivre et à se générer quand elle sait qu'elle va pouvoir profiter de son activité elle-même. Et puis, deuxièmement, c'est grave parce que cet argent, ce sont des phénomènes de surliquidité. C'est de l'argent qui est déconnecté d'une activité économique réelle, saine. Et cet argent, donc, va aller s'immerger dans les marchés économiques financiers pour en transformer le fonctionnement. Et surtout, cet argent va venir petit à petit acheter des parts de l'économie réelle. Il n'est pas indifférent de savoir peut-être qu'une partie, évidemment pas du CAC 40, puisque tout est propre à Paris, mais une partie de l'activité boursière à la City ou à New York, appartient à peut-être un baron de la drogue mexicain ou un baron de la criminalité organisée sud-africaine.
Christian Chavagneux, un commentaire sur ce que vient de dire Jean-François Guéraud, échec total et faillite.
Je partage tout à fait son analyse. D'abord sur les chiffres. Les chiffres, bien évidemment, on les connaît pas. Mais par contre, tous les spécialistes qui regardent le sujet sont d'accord pour dire que c'est beaucoup, que ça a un vrai impact au niveau des différents pays et au niveau mondial. En même temps, on est là vraiment dans les données des hors-la-loi. On est vraiment chez les bandits, là. Et ce que Jean-François Guéraud décrit dans son livre va bien plus loin. C'est un peu le début de notre conversation tout à l'heure. C'est que ces illégalismes des financiers vont bien au-delà que d'offrir des services d'opacité aux bandits. Les services d'illégalisme, c'est quand on apprend que le premier marché financier du monde, qui est le marché d'échange, plus de 5000 milliards de dollars échangés tous les jours, a été manipulé pendant des années par les traders des plus grandes banques internationales. Quand il y a un taux d'intérêt qui est déterminé à Londres, qui est un taux d'intérêt qui influe tous les taux d'intérêt des prêts du monde entier, qui est déterminé à Londres tous les jours, on apprend que pendant des années, les mêmes traders de ces grandes banques mondiales, des plus grands noms françaises, américaines, britanniques, italiennes, etc., asiatiques, se sont prêtés à une manipulation de ce taux pour gagner de l'argent, on voit que les illégalistes vont malheureusement bien au-delà que la mise en service de services d'opacité pour ces mafieux barons de la drogue, barons de la prostitution, etc. Donc moi, c'est ça mon inquiétude, et c'est par ce biais-là que j'avais travaillé sur les paradis fiscaux pour montrer que ce sont là les routes qui servent à la fois au hors-la-loi dont on vient de parler, et à la fois aux grands financiers, aux grandes fortunes, aux grandes entreprises du CAC 40 aussi, malheureusement, et de tous les CAC 40 du monde entier, pour organiser une circulation tout à fait illégale de l'argent au niveau international.
Alors, pour inverser cette tendance de la part du crime dans les marchés financiers aujourd'hui, priorité à la lutte contre les paradis fiscaux
Je ne sais pas si c'est la priorité. En tout cas, oui, si on veut vraiment réguler la finance, il faut en passer par une lutte contre les paradis fiscaux. Il faut arriver à tuer l'offre de services d'opacité financière. C'est à être un long, long, long chemin. C'est comme la lutte contre le réchauffement climatique. On peut être conscient du sujet. On peut commencer à agir au niveau international, au niveau du G20. Et je crois que 2013 marque une vraie volonté politique d'agir en ce sens. Maintenant, les résultats concrets de cette lutte, on verra dans plusieurs années. Moi, ce qui me frappe, et j'ai été assez surpris dans le bon sens par la fin du livre de Jean-François Guéraud, il nous dit on commence à pointer de plus en plus les paradis fiscaux, on commence à pointer les banques qui les utilisent, et pourtant les questions de réputation ne jouent plus. On pourrait dire quand HSBC est pris la main dans le sac de blanchiment, mais avec des milliards de dollars, comme l'a rappelé Jacques de Saint-Victor, ça devrait jouer. Lorsqu'on nous dit que BNP Paribas est la première banque française présente dans les paradis fiscaux, beaucoup plus que les autres, ça devrait jouer sur la réputation. Or, ces effets de réputation ne jouent plus. J'ai trouvé que cette remarque tout à fait pertinente, je ne sais pas comment Jean-François Guéraud l'explique, mais je me suis dit que oui, il y a la justice qui joue, oui, il y a les régulations qui doivent jouer, mais les phénomènes de réputation doivent jouer. Les investisseurs doivent se dire, moi je mets mon argent dans une banque qui se retrouve à la une de la presse parce qu'elle est présente dans les paradis fiscaux, parce qu'elle sert les illégalismes, et non, même pas, ça ne change rien. Je trouve que c'est un bon lièvre levé par Jean-François Guéraud.
Alors justement, Jean-François Guéraud, vous avez une explication, un début de piste sur le fait que le phénomène de réputation ne joue plus et que...
Alors, dans le livre, j'essaye de donner tout un tas de micro-explications. Je vais peut-être résumer ce que je pense profondément, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la mauvaise réputation est peut-être la bonne réputation. C'est-à-dire que sur les marchés financiers, qui joue, qui agit ? Des acteurs institutionnels, qui ont des mentalités et des objectifs de prédation. Alors évidemment, une mauvaise réputation, c'est quelque chose de grave quand pour le petit épargnant, pour vous, pour moi, mais vis-à-vis de la banque de dépôt. Si votre banque de dépôt traditionnelle a une mauvaise réputation, vous êtes tenté de retirer votre argent. Mais si vous êtes un très gros acteur financier international ou une très grande entreprise, le fait d'être confronté à des grands requins et des prédateurs, comme vous-même vous en êtes un certainement, c'est plutôt un gage d'intelligence et de savoir-faire. Tout le monde sait que Goldman Sachs est une banque... Alors, je vais être prudent, un peu rock'n'roll, quoi. Mais ça effraie qui ? Personne. Au contraire, on y voit une forme de technicité, de savoir-faire. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, le patron de Goldman Sachs, Lloyd Bankfeld, l'a très bien expliqué lorsqu'il a été soumis au grill de la grande commission d'enquête sur l'affaire des subprimes, la commission d'enquête du Congrès. Mais il a dit, écoutez, nous sommes dans les activités financières entre adultes consentants, entre des gens qui savent, donc le principe caveat emptor ne s'applique pas, ils savent où ils mettent les pieds. C'est ce qu'il a expliqué au Congrès des États-Unis. En gros, nous sommes des requins, ce sont des requins, et ben, que chacun se débrouille.
Un commentaire, Christian Javagnier ?
Je partage tout à fait les analyses de Jean-François Guéraud de ce point de vue. Malheureusement, s'il a raison, ça veut dire qu'il faut qu'on essaie de retrouver l'ambiance des années 30, ce que Franklin Roosevelt avait réussi à faire dans les années 30, c'est-à-dire faire comprendre que ce monde-là n'est plus possible. Et aujourd'hui, malheureusement, je crains que nos hommes politiques, y compris ceux qui pourraient s'inspirer de Franklin Roosevelt, soient pas du tout sur la même longueur d'onde et qu'ils se contentent de gérer les intérêts nationaux de leur banque. On l'a vu dans le cas français de manière tout à fait explicite. Pourquoi est-ce qu'on ne remet pas en cause le trading haute fréquence des banques françaises ? Parce qu'on a peur que d'autres banques prennent ces marchés et les développent et aillent à Londres ou à Singapour, plutôt que de se dire il faut plutôt agir politiquement extrêmement fort pour remettre ça en cause. Eh bien non, on défend nos petits champions nationaux et on laisse se propager des types de comportements que vient d'écrire Jean-François Guéraud. Et c'est à mon sens politiquement suicidaire et inacceptable.
Donc des mondes qui se tiennent, on l'a bien compris, coopération entre criminels en col blanc, gangsters traditionnels et hommes politiques corrompus. On constate de plus en plus de collusions entre terrorisme et groupes criminels. Est-ce qu'on assiste à un phénomène d'hybridation entre ces deux mondes ? Je me tourne vers vous, Jacques de Saint-Victor.
Ça, c'est en effet ce qu'on constate de plus en plus. Et je rejoins l'analyse que nous faisait Christian Chavagneux sur les paradis fiscaux. Les intérêts qui sont dans les paradis fiscaux sont loin de là majoritairement mafieux, mais ce que l'on constate de plus en plus, et là par exemple des analyses par exemple qui ont été faites dans la jurisprudence italienne, dans des choses très concrètes, montrent qu'il y a de plus en plus des pénétrations entre les sphères légales et les sphères vraiment illégales. Et on assiste en Italie à un développement d'un phénomène que les criminologues, c'est pas du tout un concept sociologique, les criminologues italiens appellent les bourgeoisies mafieuses, c'est-à-dire des acteurs qui sont parfaitement légaux, qui sont très bien établis et qui n'hésitent pas, s'il le faut, à nouer des rapports synalagmatiques avec des entreprises criminelles, des acteurs criminels. Et cela se fait dans une sorte de destruction de toutes les dernières barrières morales, si vous voulez. Au nom de quoi ? Eh bien, au nom de l'efficacité. Et c'est au fond un problème aujourd'hui qui nous ramène à quelque chose qu'on a très bien connu à la fin du 19e siècle et qui avait très bien été mis en évidence par Thurstan Veblen dans son livre célèbre sur la société de loisirs. C'est un problème d'éducation. Et là, je crois qu'il faut se tourner carrément vers les... au fond, les écoles de management, les écoles de commerce qui forment les futurs acteurs de cette finance internationale. Et c'est là que se jouera, enfin, ou devrait se jouer la clé pour notre avenir, c'est-à-dire ne pas faire de ces réputations à franc renversé dont parlait Jean-François Guéraud, c'est-à-dire essayer de ne pas confondre la vertu et le vice, quoi.
Jean-François Guéraud, un commentaire. C'est vrai aussi qu'on a vu pas mal d'anciens étudiants de Harvard mis en cause. Et pour, je ne stigmatise pas Harvard à proprement parler. On pourrait citer d'autres universités célèbres, mais en tout cas, voilà, des génies, des universités qui finalement conduisent à certaines catastrophes dans certaines circonstances.
Les questions de valeur et d'idéologie sont absolument cruciales. Jacques de Saint-Victor parlait du livre de Veblen, sa théorie de la classe de loisirs. Il est quand même intéressant de voir que dans l'histoire des idées, ce livre a été complètement oublié. C'est un livre encore plus subversif certainement que certaines œuvres de penseurs socialistes ou même de Marx au 19e. Mais ce livre était extrêmement dérangeant parce qu'en effet, il pointait du doigt des ressorts profonds de la société capitaliste et consumériste. Ce que l'on enseigne dans les écoles est en effet cardinal.
Christian Chavagneux, en début de conclusion de cette émission, j'ai envie de vous poser la question finalement de savoir dans quel monde vit-on aujourd'hui ?
C'est une question assez vaste, très philosophique. Si vous me permettez, je vais apporter un petit complément à ce qu'ont dit les deux autres auteurs. Je crois qu'on a tout à fait raison de souligner que notre capitalisme contemporain est celui de l'hybridation. Il y a même un mot en japonais qui s'appelle les Ankoku Jidai, et c'est un lieu physique concret où les gens de l'administration, les gens du privé et les mafieux se rencontrent physiquement pour parler de l'évolution de l'économie. Lorsqu'on s'appuie sur les travaux de Jean-François Bayard, qui est un chercheur français de renommée internationale qui étudie comment l'État et comment le politique se construit à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui, on est complètement frappé par le fait que ce qu'il montre, c'est que les liens entre élites privées, élite publique, élite mafieuse fait partie de l'histoire depuis des siècles et que, on parlait de la féodalité tout à l'heure, mais dans tous les pays du monde, selon des trajectoires historiques et des sociétés bien particulières, mais c'est un phénomène qui n'est pas inédit. Aujourd'hui, on le constate chez nous, mais on pourrait le constater dans beaucoup, beaucoup, en Chine, au Japon, dans tous les pays émergents asiatiques, en Amérique latine, aux États-Unis, en France, on s'est construit sur l'alliance entre des comportements illégaux, des comportements d'initiative privée et des comportements de construction politique. Donc je crois que cette hybridation, vous avez tout à fait raison de souligner, elle est traditionnelle de notre capitalisme contemporain, mais aussi elle est traditionnelle de l'évolution de l'économie politique à travers les siècles.
Donc j'en reviens à ce qu'on disait finalement au début de l'émission, rien de nouveau sous le soleil.
Non, justement, moi je ne suis pas d'accord avec cette analyse
Jacques de Saint-Victor.
Du rien de nouveau sous le soleil. Il ne faut pas oublier quand même d'où nous venons. C'est vrai qu'il y a eu de nombreuses sociétés qui se sont construites dans cette hybridation, mais n'oublions pas que quand même nous venons d'une tradition occidentale qui à partir quand même disons du milieu du XVIIIe siècle, avec tout l'apport de ce qu'on a appelé la Commercial Society et autres, associer l'idée du commerce et de la pacification. Et d'ailleurs, ça s'est passé comme ça. Non, mais ça s'est passé d'une certaine manière comme ça, même si, évidemment, nous savons tous, historiquement, que, enfin, en tout cas, la société libérale capitaliste n'est pas née comme le décrivait l'Emmanuel Béat de l'économie politique, pour reprendre une expression célèbre. Mais en tout cas, à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle, il y a eu tout de même une tentative de rationalisation et de pacification. ce à quoi j'ai l'impression quand même qu'on assiste depuis une trentaine d'années, c'est un retour vers justement de très mauvaises pratiques que nous avions petit à petit contribué à cantonner, voire pour, dans certains moments, éliminer. Voilà.
Jean-François Guéraud.
Alors, il est vrai que quand on observe le capitalisme américain au 19e siècle, eh bien, c'est d'une part les fameux barons voleurs. C'est une réalité. C'est même beaucoup plus que ça, parce que l'historiographie américaine a montré récemment qu'une partie de ces barons voleurs aussi avaient su travailler main dans la main avec le crime organisé naissant aux États-Unis, mais de manière un peu systémique. Donc les deux phénomènes ont existé, et ce à quoi justement Franklin Delano Roosevelt et New Deal essayent de mettre fin, c'est bien ça. Donc ça n'est pas nouveau, il y a comme un espèce de retour de l'histoire, mais un retour de l'histoire qui prend peut-être un autre visage et peut-être une autre gravité, une autre importance. Donc je pense qu'il faut être prudent, parce que la théorie du « rien nouveau sous le soleil », c'est quelque chose d'un peu fataliste, qui nous laisserait penser qu'on ne peut rien changer ou rien bouger. Voilà, donc c'est juste pour nuancer un petit peu ce que disait Christian Chavagneux. Alors c'est vrai qu'on a déjà connu ça dans l'histoire, mais en même temps, je pense qu'il y a une part d'inédit dans ses modalités, dans ses dispositifs, et peut-être dans sa profondeur.
Parce que, alors, on l'aura compris avec ce que vous nous avez dit les uns et les autres, finalement, l'événement majeur ou l'évolution majeure, c'est donc la financiarisation du monde. J'en reviens à ma volonté de conclusion. Là, maintenant, il est temps. Dans quel monde vivons-nous? Est-ce que la démocratie existe encore? Et s'il semble que oui, est-ce que c'est pas une apparence quelque peu trompeuse? Et on l'a compris dans la mesure où les États, finalement, ont peur de poursuivre les puissants. Élément de conclusion, Christian Chavagneux.
Il y a un risque de plutocratie. C'est extrêmement clair aujourd'hui que les puissances de l'argent, par l'argent qu'elles détiennent, eh bien, puissent imposer leur voie politique. Bien évidemment, dans le débat américain, c'est beaucoup plus présent que chez nous, mais quand on voit la façon dont les intérêts financiers arrivent à imposer leur point de vue, et quand je dis imposer, j'ai peut-être un peu trop loin, il y a certaines élites politiques qui acceptent de se faire capturer bien volontiers, eh bien, on peut quelquefois se demander si effectivement notre démocratie n'a pas une tendance à la plutocratie qui malheureusement s'exprime de plus en plus.
Jacques de Saint-Victor.
Oui, j'irais dans ce sens, en sachant que d'un point de vue théorique, de toute façon, tout régime démocratique a toujours une petite part d'oligarchique ou d'aristocratique, car il n'y a pas véritablement, et il n'y a jamais eu de démocratie pure. La question est de savoir, justement, ce qu'on appelle en théorie juridique les régimes mixtes, quel est le degré dans la mixité d'éléments oligarchiques ou aristocratiques, et quel est le degré d'éléments démocratiques. Il est clair que jusque, je crois, dans les années 80, nous avions tout de même une expression démocratique assez importante. L'élément aristocratique et oligarchique ne cesse de progresser, et il est de moins en moins aristocratique au sens, par exemple, les juges de la Cour constitutionnelle, et de plus en plus oligarchique et plutocratique au sens de puissances financières qui n'ont même pas de statut juridique. Il faudrait peut-être, d'ailleurs, leur donner, au fond, une forme de statut juridique. Je ne sais pas comment, ça serait trop compliqué, mais pour que, justement, au fond, certes, ils apparaissent dans le débat en tant que tels. Or, aujourd'hui, ce sont des puissances obscures, des puissances occultes. Et ça, c'est aussi un vrai problème pour la démocratie.
Jean-François Guéraud.
Je partage ce diagnostic. Nous sommes de plus en plus dans des systèmes plutocratiques, donc du gouvernement de l'argent par l'argent et pour l'argent. C'est quand même un phénomène très préoccupant, et ce qui me trouble, c'est de voir que nous sommes dans un univers dans lequel il y a une montée très forte des inégalités, et que ce phénomène est concomitant d'une partie de la criminalisation à la fois des systèmes politiques et des marchés financiers. Et je pense qu'il y a entre les deux phénomènes, montée des inégalités et criminalisation, beaucoup plus que de la corrélation, je pense qu'il y a un lien de causalité entre les deux.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Jean-François Guéraud, commissaire de la police nationale et ancien membre de la direction de la surveillance du territoire, aujourd'hui essayiste, Le nouveau capitalisme criminel est son dernier livre, paru chez Odile Jacob, Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint du mensuel Alternative économique, auteur de La capture, où l'on verra comment les intérêts financiers ont pris le pas sur l'intérêt général et comment mettre fin à cette situation aux éditions La Découverte, et Jacques de Saint-Victor, historien, auteur de Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique aux éditions Gallimard. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin avec l'appui de la documentation et Nathalie Laporte pour la réalisation et la technique. À la semaine.